Une ville. C'est vraiment regrettable que vous deviez rester debout le long des murs. Je suis passé devant le bâtiment en me rendant à un autre rendez-vous il y a environ une heure et demie. Et les gens faisaient demi-tour à la porte. Ils repartaient. J'ai rencontré Billy là-bas et il m'a dit que tout était en place pour le service depuis cet après-midi. Donc, nous avons tout simplement fait ces petites réunions ici. Nous ne les avons même pas annoncées dans les journaux locaux. Alors, nous passons simplement quelques moments de communion ensemble. Et maintenant, il y a toujours beaucoup d'activités, comme les gens qui ne sont pas de la ville le sauraient. Ici, dans ma ville, c'est toujours à la hâte. Aller en vitesse ici et là. Et on est pressé. Alors, je commence un peu à m'y faire. J'en suis au point où je ne laisse pas ces choses-là m'affecter autant que possible. Et vous savez, il faut passer un petit peu de temps, et il faudrait en passer plus avec le Seigneur. Si on ne le fait pas, alors on n'entre pas dans la réunion avec la fraîcheur du Saint-Esprit. Et quand on arrive, comme c'est le cas aujourd'hui, où ça a vraiment été à grand déploiement, eh bien, parfois, c'est assez difficile pour moi d'arriver sans être un peu énervé et à la hâte, vous voyez, et sans que je sois tout agité. Quand je suis comme ça, alors je n'arrive pas à trouver le Saint-Esprit nulle part. Alors, mais ça me fait de la peine qu'il y ait des gens debout dans les allées et à l'extérieur, autour. Et il y en a qui approchent, ils regardent à l'intérieur, ils montent dans leur voiture et repartent. J'aurais voulu avoir l'école secondaire ici pour faire juste quelques soirs de réunion. Mais c'est la période des classes. Et c'est assez difficile pour moi de l'avoir pendant cette période. Mais je veux dire que je vous apprécie vraiment, chacun de vous, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, et votre belle collaboration, et tout ce que vous avez fait. Et ce matin, à l'école du dimanche, j'ai remercié les gens pour l'offrande qui m'a été donnée hier soir, une offrande non sollicitée. Franchement, j'avais dit au pasteur ici, à notre bien-aimé pasteur, frère Neville, et aux autres, que je préférais qu'ils ne fassent pas ça, mais ils l'ont fait quand même. Alors je voulais mentionner quelque chose là-dessus. Bon, cette salle est petite, environ 300 personnes peuvent s'y asseoir, pas plus que ça, je ne pense pas. Et l'offrande a été de $324, ce qui représente une offrande moyenne $1 par personne. C'est la meilleure offrande qui m'ait jamais été donnée de toute ma vie, considérant le nombre de personnes. Généralement, la moyenne sera d'environ 24 cents par personne. 25, 27 cents, c'est une offrande considérable par personne. Mais dans ce cas-ci, l'offrande moyenne a été d'environ $1 par personne. Et j'apprécie vraiment beaucoup cela. Et peut-être que ce matin, je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer à quelques-uns d'entre vous. Nous avons trouvé des gelées, une boîte de gelées sur le perron, et des petits cadeaux qui nous ont été envoyés. Ma femme et moi, nous voulons vous exprimer notre gratitude. Et je suis sûr que nous ferons vraiment de notre mieux, que tout sera utilisé pour le royaume de Dieu. Et tout ça me donne vraiment le désir d'avoir un très grand endroit où nous pourrions simplement continuer sans arrêt, pendant longtemps, et nous occuper des gens. Mais ce soir même, après le service, je suis censé partir. Je ne pourrai pas partir ce soir, mais demain matin, de bonne heure, je partirai. Je reviens samedi soir prochain, je repars dimanche matin pour le Colorado. Et c'est tout simplement continuel. Les voyages se succèdent. Et puis, ma prochaine réunion outre-mer est en janvier. Et ce sera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et par là. Maintenant, je voudrais que vous priez pour moi. Je tiens vraiment beaucoup à vos prières. Et puis, je voudrais que tous nous soyons reconnaissants au Dieu Tout-Puissant qui a fait de si grandes choses pour nous pendant ces petites réunions. Je crois que, pour le temps qu'on a passé, plus de choses ont été accomplies pendant ces réunions que toute réunion que j'ai jamais faite de toute ma vie à ce tabernacle. Le Seigneur, semble-t-il, a vraiment déversé les bénédictions. J'ai pensé que peut-être pendant ces réunions, d'après une vision que j'ai eue, que mon ministère va se transformer en un ministère meilleur et plus grand. Or, la chose va arriver. Aussi vrai que vous, les gens, vous avez entendu prédire ces trois autres ministères, ou ces deux autres. Celui-ci sera exactement comme ça, sauf plus grand. Mais le premier soir, j'ai simplement invité les gens à s'avancer à l'autel. Et là, c'est tout de suite retourné au discernement. Le deuxième soir, je les ai emmenés dans la pièce. C'est tout de suite allé au discernement. Et les deux derniers soirs, alors, nous les avons fait venir ici, sur l'estrade. Tout de suite, c'est allé au discernement. Mais simplement pour vous donner un compte-rendu de certaines choses, un ministre aveugle a recouvré la vue sur l'estrade. Et deux petites filles, hier soir, assises dans un fauteuil roulant, souffrant de maladies dont personne ne sait ce que c'est, aucun médecin. Elles avaient les pieds énormes et les orteils qui tombaient, les doigts qui tombaient, et il n'y avait rien qu'on puisse faire pour elles. Et juste au moment où il y avait l'onction de l'Esprit, je suis allé vers elles. Et au nom du Seigneur Jésus, j'ai maudit cette maladie. Et les voilà qui se sont levées du fauteuil roulant. Et ce matin, elles allaient et venaient ici dans le tabernacle comme n'importe quel autre enfant. Et elles sont venues et ont été baptisées du baptême chrétien, ici même dans le baptistère, ce matin. Pendant que je prenais quelques minutes pour étudier, tout à l'heure, quelques-uns de mes amis, frère Hoover, un ministre du Kentucky, est arrêté en passant et il a laissé un message à ma femme, comme quoi hier soir, quand j'appelais les gens dans l'auditoire, des femmes qui n'avaient pas de carte de prière ni rien étaient simplement assises là, à prier. Et il y avait une femme qui n'avait pas mangé un repas depuis je ne sais plus combien de temps, des tumeurs dans l'estomac, tout plein. Et le Seigneur l'a appelée et l'a guérie. Ce matin, elle s'est levée et elle a pris un petit déjeuner normal. Et elle est ici quelque part ce soir. Et il y en a d'autres dont il parlait. Et oh, le temps ne nous permettrait pas les choses que notre Seigneur a faites. Alors, pour nous, ça nous donne du courage de savoir que c'est tout proche. Quelque chose est sur le point d'arriver, quelque chose de glorieux. Hier soir, après le service, après le message, je n'ai jamais, à aucun moment, jamais vu le Saint-Esprit oindre les gens plus intensément qu'il ne l'a fait hier soir. Nous nous attendons encore à la même chose ce soir. Et maintenant, priez pour moi. Et je voudrais lire dans la parole de Dieu béni. Et avant de lire la parole, adressons-nous donc à lui, avec nos têtes inclinées un petit instant. Cher Père Céleste, nous venons à toi ce soir. Notre corps est peut-être un peu fatigué, mais oh, combien notre esprit est rafraîchi. Les signes du Dieu vivant qui montrent qu'il est avec nous et qu'il nous bénit et qu'il nous donne ce qu'il a promis, infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons faire ou penser. Et si nous avons trouvé grâce à tes yeux en croyant à ton Fils, le Seigneur Jésus, nous te demandons de bien vouloir ce soir nous visiter de nouveau par une double portion de ton esprit. Puisse-t-il se répandre avec une grande puissance et en grande mesure sur chaque personne ici, afin qu'ils croient l'Évangile et qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Sauve ceux qui peuvent être sauvés ce soir, Seigneur, et guéris ceux qui sont prêts à recevoir la guérison. Accorde-le, Seigneur, de voir les gens qui se sont pressés en foule à l'entrée, qui sont restés debout devant les portes, et des centaines qui ont dû repartir sans entrer dans la petite église. Ça nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En effet, à l'époque où il nous a visités, ici sous la forme d'une chair humaine, la foule était si compacte qu'ils n'avaient même pas pu lui amener un homme. Alors ils ont été obligés de faire descendre celui-ci par le toit du bâtiment. Nous prions au Dieu que ce soir, chaque personne de cette foule qui a dû se presser ainsi pour entrer soit récompensée, comme cet homme l'a été. Bénis ta parole alors que nous la lirons, et qu'elle soit une lampe, une lumière sur notre sentier. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Non, Rosella Griffith, on vient de me rapporter à l'instant que la jeune fille que j'avais demandé ce matin, une alcoolique qui avait été appelée pendant la réunion à Chicago, en effet, elle était assise au balcon, et alors le Saint-Esprit lui a parlé et a déclaré qu'elle était alcoolique. Et cinq grands médecins de Chicago l'avaient condamnée. Les alcooliques anonymes l'avaient condamnée. Et elle a été appelée, avec un ainsi dit le Seigneur, elle a été guérie. À partir de ce moment-là, elle n'a plus jamais eu l'envie de boire de l'alcool. Et une autre jeune fille qui était au balcon, un peu plus haut qu'elle, c'était une de ses amies, des gens qui habitaient Calumet City. Si quelqu'un sait ce que c'est, ça, c'est une ville frontière. Et là-bas, c'est pire qu'à Paris, en France. Il s'y passe toutes sortes de vilaines choses. Et il lui a été dit qu'elle faisait du trafic de drogue et qu'elle dansait avec Fred Astaire. Et son père a protesté, mais elle s'est levée et elle a dit, « Papa, cet homme a parfaitement raison. » Maintenant, elle est mariée, cette jeune fille, et elle s'est mise en route avec son mari à prêcher l'Évangile. Rosella fait de l'action missionnaire à tous les services, dans les prisons, et là où elle peut s'infiltrer. Elle va dire aux alcooliques qu'il y a un espoir, et c'est en Christ. Elle était très accablée à cause de son père. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons eu un entretien privé de 10 minutes. Cette jeune fille a soutenu de façon très marquée les réunions au cours des 4 ou 5 dernières années. Donc, elle m'a fait un petit compte-rendu de 10 minutes à la roulotte pendant un entretien où elle disait, « Frère Branham, quoi que vous puissiez faire, je suis terriblement accablé à cause de mon père. Il vous aime, mais il refuse carrément de venir à Christ. » J'ai dit, « Rosella, Dieu sait comment faire ça. Il sait comment l'amener à le faire. » Et la nouvelle nous arrive à l'instant qu'il est enseveli sous une charge de calcaire. Prions pour lui. Seigneur, de la bouche de sa fille loyale, et alors qu'il est bloqué là-dessous, qu'il pourrait mourir là. Ô Dieu, fasse qu'il ne meure pas, mais que son âme regarde en haut et se souvienne que tu es Dieu, celui qui peut exaucer la prière sous un amoncellement de calcaire, tout comme tu as pu le faire dans le ventre d'une baleine, ou dans la fournaise ardente, ou dans la fosse au lion. Tu es encore le même. Fais qu'il sorte de là, Seigneur, un chrétien lavé. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et nous prions que cette chose-là en soit une, alors que nous la remettons entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Pour la lecture de la parole ce soir, dans le livre de 2 Rois, j'aimerais lire au chapitre 2, simplement un petit texte dont je vais tirer un contexte, Dieu voulant. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élie répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes étaient là à Bethel, sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils allèrent à Jéricho. Les fils des prophètes étaient là à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Mon sujet de ce soir, c'est un homme appelé de Dieu. Je vais essayer d'être aussi bref que possible, parce que nous allons avoir une longue ligne de prière dans quelques minutes seulement. Mais simplement pour vous permettre de voir un peu à quelle époque nous vivons. Nous entendons ce cri à la radio et à différents endroits, et il provient de cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. Et dans des lettres provenant de chrétiens partout dans le monde, nous entendons ce cri, et c'est quelque chose qui touche le cœur. Ça inspire, ça élève, ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Et Dieu a fait une promesse. Si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et qu'il prie, alors je l'exaucerai des cieux. Et alors, nous, ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Et souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer de réveil tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient en état de le porter. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie et dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation, des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes, des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence, et qui connaissent sa puissance de guérison. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. C'est bien de les former par la parole, mais la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler des hommes et les former. Des hommes formés par Dieu pour porter ce message. Ils ne se préoccupent pas de l'opposition. Ils sont disposés à aller à la fournaise ardente dans la défaite, ou à la fosse aux lions, ou n'importe où. Ils sont prêts à y aller parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu et ils savent qu'il existe. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ils vont quand même tenir le coup. Voilà le genre de formation que Dieu donne aux hommes. Et c'est très étrange de penser que Dieu ferait ça, que c'est comme ça que Dieu forme ses hommes. Mais c'est ce qu'il fait. Vous savez, il y a ce vieux cantique que nous chantons. Certains passent par les eaux, certains passent par les flots, certains passent par de dures épreuves, mais tous passent par le sang. Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves pour les purifier. Et parfois, il faut des années pour le faire. Moi, ce que je crois ce soir, c'est que Dieu est maintenant même en train de former de tels hommes pour faire face à la ligne de bataille. Des hommes qui passent au travers et qui, des fois, sont secoués jusqu'à perdre pied. Parfois, on dirait que tout est en train de s'écrouler. Et pourtant, au milieu de tout ça, ils connaissent ce Dieu vivant. Ils continuent à regarder en avant. Ils continuent à avancer. Et bien des gens qui prient pour avoir un réveil. Je me demande si eux, parfois, ceux qui prient, si ce ne sont pas leurs prières mêmes qui bloquent les fontaines de bénédiction. Alors qu'ils sont peureux et qu'ils ont peur de faire confiance à Dieu, peur de le prendre aux mains, peur de croire qu'il vit encore aujourd'hui, alors que sa Bible déclare en termes clairs qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'appelle que très rarement les hommes intelligents, ceux qui sont instruits, les intellectuels. Ils ont leur rôle à jouer. Et ce sont de grands hommes. Mais généralement, quand Dieu veut que le travail se fasse, il va chercher quelqu'un qui sait à peine son alphabet. Sondez les Écritures. Fouillez dans l'histoire. Les hommes qui ont été quelqu'un pour Dieu, ce n'étaient pas des hommes qui avaient beaucoup d'instruction, mais des hommes qui, en fait, n'avaient aucune instruction. Seulement, ils avaient le désir dans leur cœur de servir Dieu. Il est allé chercher le laboureur, le berger, le pêcheur, le chasseur, ceux qui vivaient dans la nature, dans la tranquillité et la quiétude de la nature. Là, Dieu pouvait leur parler, et c'est cela qu'il a appelé. Et s'il se trouve qu'il lance son appel à quelqu'un de très intellectuel, alors cette personne va finir par retourner à ses conceptions intellectuelles. Et au bout d'un certain temps, quand il est question d'accomplir des choses phénoménales, il est trop impliqué avec les gens du monde pour accepter quelque chose comme ça. Donc, il finit par aboutir dans une dénomination et il continue à dévier et devient ministre. Et il n'y a pas de mal à ça. Je n'ai rien contre la personne qui ferait ça. Mais quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Et loin, et l'envoie, et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Voilà le genre d'homme qu'il nous faut aujourd'hui. Non pas des érudits aux manières raffinées, mais des hommes qui connaissent Dieu dans la puissance de sa résurrection. Par exemple, il y a eu un homme dans la Bible qui s'appelait Moïse, qui avait reçu toute sa formation. Il connaissait toute la théologie. Il savait tout ce qu'il devait savoir. Même que s'il avait eu besoin de quelque instruction que ce soit, il pouvait enseigner aux maîtres d'Israël ou de l'Égypte. Il n'avait besoin d'absolument rien. Et la Bible nous dit qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Voyons, il pouvait enseigner à leurs érudits. Il pouvait enseigner des choses à leurs savants. Il était au summum du côté intellectuel. Et pourtant, Dieu a mis 40 ans à le vider de tout ça. Là-bas, dans le désert. Et quand il a été vidé de toutes les conceptions intellectuelles qu'il avait de Dieu, là-bas, dans le désert, le métal était alors prêt à être façonné de nouveau. C'est comme ça que Dieu s'y prend. Ces hommes, il les vide de toutes leurs peurs et de tout leur intellectualisme. Et alors le grand maître potier les installe sur le tour et se met à les façonner de nouveau. Des ouvriers dignes, c'est l'homme de Dieu. Qui pourrait former un homme mieux que Dieu lui-même? Observez comment il s'y prend pour les former. Nous pourrions en considérer encore un autre qui s'appelait David. Dieu formait David à l'époque où il n'était encore qu'un petit garçon. Le prophète Samuel est venu verser de l'huile sur sa tête. Il l'a oint parce que Dieu allait former David pour qu'il devienne un guerrier puissant. Et regardez quelle formation il lui a donnée. Je lisais il y a quelque temps, ici à Green's Mill, là où j'ai l'habitude d'aller pour prier. Le passage où Dieu a dit à David, « Je t'ai pris au pâturage. derrière les quelques brebis de ton père, là-bas. Et j'ai rendu ton nom grand comme celui des grands qui sont sur la terre. Et je pense à la solide formation qu'il a donnée à David. Il ne l'a pas du tout instruit dans une école quelconque, mais il l'a instruit dans son école à lui. David était un chasseur et un berger. Quand il a écrit les psaumes, il a parlé de verts pâturages et d'eau paisible. Parce que là-bas, il était seul, tout seul. Il n'était pas contaminé par les choses du monde. Dieu doit éloigner un homme des choses du monde pour pouvoir le tranquilliser, pour qu'il puisse écouter Dieu, cette petite voix tranquille. Puis, une fois qu'il a fait le contact avec Dieu, il ne recule plus devant rien alors. Remarquez qu'il ne se préoccupe pas de ce que qui que ce soit peut dire. Il a été dans la présence de Dieu. Il connaît Dieu dans la puissance de sa résurrection. Et alors, David, nous voyons celui-ci. Un jour, Dieu a permis qu'un ours vienne enlever l'une de ses brebis. David s'est lancé à la poursuite de cet ours. Il n'y a aucun doute qu'il avait prié, puisqu'un peu plus tard, il a confessé l'avoir fait. Il avait prié et il avait demandé à Dieu. Il était le gardien de cette brebis. Il ne pouvait pas perdre cette brebis. Il fallait qu'il sauve cette brebis à tout prix. Il a pris sa petite fronde et il s'est lancé à la poursuite de cet ours et il l'a tué. Il fallait qu'il sauve cette brebis. Vous voyez à quoi Dieu l'entraînait? Dieu veut que ses bergers sauvent les brebis. Qu'importe de quoi on peut le traiter et ce qu'il doit endurer, sauver ses brebis. Quand il a vu que David avait été courageux devant cet ours, il a simplement augmenté un peu la puissance de l'animal. Et il a envoyé un agneau, un lion, qui est venu enlever l'un des agneaux. Et le lion est un animal féroce. Oh, en Afrique, quand je les chassais, un lion est capable de tuer 10 hommes en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf. Oh, c'est une bête très puissante. Un grand rugissement, et voilà, les hommes se consument, tout simplement. Et l'homme qui meurt sous la puissance du lion, il ne ressent absolument aucune douleur. C'est tellement effrayant d'entendre ce rugissement qu'il pousse. Ces grosses pattes, énormes, en une seconde, ils mettent en pièces une douzaine d'hommes. Et de penser, un petit garçon, la Bible dit qu'il avait le teint rosé, ça veut dire qu'il n'était qu'un petit bout d'homme, avec une petite fronde. Vous savez ce que c'est? C'est un petit morceau de cuir, avec une corde de chaque côté. Et un lion affamé qui avait déjà le goût du sang dans sa gueule est venu et il a enlevé une brebis. David a levé les yeux vers Dieu et il a dit, « Je ne peux pas perdre celle-là. Aide-moi, Seigneur. » Et il a terrassé le lion avec sa fronde. Et quand le lion s'est dressé contre lui, ce petit garçon, alors que le lion pesait environ 500 livres ou plus, ce petit garçon n'en pesait peut-être que 70 ou 80. Il a sorti son couteau de sa petite ceinture. Et quand le lion s'est relevé, quelques coups de patte, et il aurait tué 10 hommes, il a saisi le lion par la barbe et l'a tué. Du courage. Dieu ne veut pas des lâches. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que le Seigneur dit. C'est avec ceux de cette trempe-là qu'il agit. Qu'importe ce que l'Église peut dire, ce que le pasteur peut dire, la position que peut prendre l'Église, lui, il prend position pour Dieu et pour la justice et pour sa parole. Voilà les hommes que Dieu enverra en ces jours pour son réveil, que son peuple réclame par la prière. Quelques années plus tard, quand il est allé voir ses frères à la bataille, il y avait une espèce de grand géant là-bas, qui avait des doigts de 14 pouces. Et il se vantait. Il disait, « Maintenant, que quelqu'un vienne donc me combattre. Si vous me battez, je me rendrai. Si c'est l'inverse, alors c'est nous qui servirons. Celui qui se rendra, ce sera celui qui aura perdu. » Voilà comment le diable aime procéder. Quand il pense qu'il a le dessus sur vous, il vous dira, « Tu ne réussiras pas à faire passer ça. Tu ne peux pas prêcher la guérison divine dans l'église méthodiste, dans l'église baptiste. Eh bien, vous, les prédicateurs méthodistes, entrez donc en contact avec Dieu une fois et voyez si vous le pouvez ou pas. » Ah, vous n'y arriverez jamais avec votre théologie, ce qu'ils enseignent. Vous devrez entrer en contact avec Dieu et savoir qu'il existe. Ils disent, les pentecôtistes, il y a quelques années, il y avait un groupe de gens qui se tenaient là, au coin. Ils n'avaient même pas de bâtiment où ils pouvaient aller. Mais avez-vous lu le magazine Life l'autre jour, ce qu'ils disaient d'eux? C'est l'un des plus grands phénomènes que cet âge ait jamais connu. La montée de l'église pentecôtiste, certainement. Et ils produisent plus de convertis en un an que toutes les autres églises ensemble. C'est ce que disait le magazine Life. Il se peut qu'ils soient dans la confusion sur certains points. Mais frères, ils sont courageux. Ils se tiennent là avec fermeté. Ils appellent les choses par leur nom. Noir, c'est noir et blanc, c'est blanc. Quand le réveil va se manifester, finalement, il va se manifester parmi eux. Regardez bien et vous verrez si ce n'est pas le cas. Ils vont être remis dans la bonne voie un de ces jours. Et David, quand Saül a mis son armure sur lui et qu'il a dit, « David, si tu as l'intention de combattre ce gars-là, ce géant, » il a dit, « Voyons, tu n'es qu'un gamin, qu'un jeune homme. » Et lui, il était guerrier dès sa jeunesse. Comment vas-tu faire pour le combattre? Écoutez ce petit David. Vous voyez, il ne l'a pas dit comme ceci. Monsieur Saül, votre honneur, mon père m'a envoyé à l'école primaire, au collège, à l'école secondaire. J'ai un doctorat. J'ai les compétences nécessaires pour faire ceci. Je suis un homme intelligent. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il l'a dit. Il a dit, mon Seigneur, il a dit, quand je gardais les brebis de mon père là-bas, un ours est venu en enlever une, et je l'ai tué. Et un lion est venu en enlever une, et je l'ai renversé. Et quand il s'est relevé, je l'ai tué. Et il a dit, le Dieu qui m'a délivré des pattes de l'ours et du lion peut aussi me délivrer des mains de ce Philistin incirconcis. Un homme formé par Dieu. Saül était là, avec toute la formation qu'un homme puisse recevoir pour savoir combattre. David ne s'y connaissait pas du tout en épée. Il ne s'y connaissait pas du tout en armure. Eh bien, Saül est allé lui mettre sa grande armure. Et le petit David se tenait là, les jambes arquées presque. Ils ont constaté que son vêtement ecclésiastique n'allait pas à un homme de Dieu. Ça ne faisait que l'écraser. Et tous nos credos et tout ne feront jamais le poids contre l'équipement de Dieu là-bas. Oh, nous pourrions vraiment continuer sans arrêt et dire beaucoup de choses de bien des personnages différents. Mais allons directement à notre texte pour faire vite. Élie prenait de l'âge. Elle savait qu'avant longtemps, il allait devoir quitter ce monde. Et Dieu avait trouvé un homme qui était un homme honnête, qui était un homme bon. Il s'appelait Élisée. Maintenant, si vous remarquez, l'un s'appelait Élie et l'autre Élisée. Or, il n'est pas du tout allé vers le formalisme et tout, aller dans les écoles de théologie pour le trouver, ni dans les grandes écoles secondaires de l'époque. Il est allé dans le champ et il a trouvé un homme qui labourait avec 12 paires de bœufs. Quoi donc? Élisée, celui qui labourait, il savait apprécier une ligne droite et il savait que s'il se retournait pour regarder en arrière, il vacillerait et sortirait du chemin. Et Dieu savait qu'un homme qui savait tracer un sillon droit en labourant saurait qu'on ne met pas la main à la charrue pour ensuite ne serait-ce que regarder en arrière. Il n'a jamais attendu d'avoir de l'instruction. Il n'avançait pas en vacillant sur le chemin. Il a simplement tué le bœuf. Il a offert un sacrifice et il est parti avec Élie. Aussitôt qu'il a eu ce manteau sur lui, il était prêt, plein de bonne volonté. Dieu savait qu'il pourrait lui donner la capacité. Maintenant, Dieu doit le mettre à l'entraînement. Il en avait eu. Il l'avait entraîné à garder les yeux sur le sillon, avec 12 paires de bœufs et un seul homme qui labourait derrière eux. Il lui avait enseigné la patience, à être patient, à entraîner ses bœufs à marcher bien alignés. Plus tard, il a eu à former des hommes, les a menés à s'en tenir à la Bible, à la parole, à s'aligner sur Dieu, à rester bien alignés. Et puis, il a même fallu que Dieu fasse un peu son éducation. Il a dit, « Maintenant, reste ici, parce que je vais à Gilgal. L'Éternel m'y a appelé. » Et le prophète, après avoir senti cette puissance sur lui, ce manteau d'Élie, il a dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Il est allé à Gilgal, qui est le lieu de la confession chrétienne et du baptême. Et alors il a dit, « Reste donc ici, maintenant. C'est suffisant. Tu as fait ta confession et tu as été baptisé. C'est suffisant. Je m'en vais à Bethel, ce qui veut dire la maison de Dieu. Or, il y a des gens qui font seulement profession de quelque chose, se seraient contentés de ça. Oh, je viens d'adhérer à l'Église et j'ai de la communion. Pourquoi ne pas rester ici? Mais écoutez, Élisée ne pouvait pas avoir ce genre d'idée-là. Il avait déjà senti la puissance de Dieu. Il savait qu'il pouvait recevoir plus que ça. Alors il a dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Oh, j'aime vraiment ça. Et il est allé à Bethel, à la maison de Dieu. Et il y a trouvé une bande d'érudits. C'étaient tous des prédicateurs qui avaient reçu une solide formation. Ils sont venus par là lui dire, ils ont dit, « Monseigneur, sais-tu quoi? Tu vas te faire avoir. Sais-tu qu'Élie te sera enlevé? Il est trop vieux. Il ne peut plus vivre encore très longtemps. Élie te sera enlevé et toi, tu vas rester là comme un fanatique. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Un homme qui a déjà goûté à Dieu ne voudra pas ou ne peut pas étancher sa soif à une citerne faite de main d'homme. Il ne le peut pas. Là, toute la théologie qu'ils avaient là-bas à l'école des prophètes, ça n'étancherait pas la soif de cet homme de Dieu qui avait goûté à Dieu. Et ils insistaient. Oh, tu devrais rester ici. Et voyons, dans 6 semaines, nous pourrions te donner ton doctorat. Et tu sais, ce ne serait pas bien long, au bout d'environ 4 ans de formation ici, nous pourrions te donner le droit de prêcher. Tu sais, si tu faisais tes preuves, que ça allait bien, nous t'enverrions œuvrer pour notre dénomination. Ça ne satisfera pas un homme de Dieu. Nous te formerons pour que tu deviennes ministre si tu acceptes seulement de rester avec nous environ 4 ou 5 ans ici. Il n'avait pas de temps pour ce genre de choses. Il était en route vers cette source. Il était déjà au-dessus de tout ça. Il avait déjà goûté au ciel dans son âme. Et il a dit, « Sais-tu que ton chef va t'être enlevé ?» Écoutez ce qu'il a dit. « Oui, je le sais, mais taisez-vous. » Autrement dit, ne gaspillez pas votre salive. N'essayez pas de m'en parler. N'essayez pas de me parler de ce que je suis en train de faire. Je sais où je vais et ce que je poursuis. Oh Dieu, donne-nous des hommes comme ceux-là, des hommes formés par Dieu, qui ont appris à ne pas dévier en vacillant de ce côté-ci et en vacillant de ce côté-là. Je sais où je vais, et ne m'en parlez pas. Avalez donc votre salive. Ne cherchez pas à me décourager, parce que ça ne servira à rien. Oh, si seulement les gens qui reçoivent de la prière avaient autant de courage. Oh, les jours des miracles sont passés. Ce n'était pas réel, ça. Regarde bien, tu vas retomber malade. Avalez donc votre salive. Ne me parlez pas de ça. Je continue à avancer. Le réveil va venir. Dieu l'a promis. Oh, vous, les fils de Dieu, transportez-vous dans cette sphère, là-bas, sans peur, prenez Dieu au mot. Je sais qu'il va m'être enlevé, mais ce n'est pas ça qui me... Ici, vous n'avez rien qui m'intéresse. Tous vos diplômes et vos doctorats et vos licences en lettres et tout ce genre de choses, ça ne me satisfait pas. Avalez donc votre salive. Eh bien, tu vas perdre la boule là-bas. Eh bien, si je perds la boule, que je perde la boule. Je suis en route. Il continuait. Il avançait. Tu ne réussiras pas à passer la rampe avec ça. Je sais que moi, je ne réussirai pas à passer la rampe. Mais Dieu, lui, il va me faire passer au travers, a-t-il dit. Eh bien, Élisée s'en va au Jourdain. J'y vais avec lui. Dieu exige le Jourdain de chaque vie. Alors Élisée est venu. Il a dit, « Bon, Élisée, Élie a dit à Élisée, « Tu n'es qu'un jeune homme, peut-être quelque chose comme ceci. Et en réalité, tu es sans instruction. » Le vieux prophète voulait l'éprouver. Il a dit, « Tu n'es qu'un jeune homme, tu as très peu d'instruction. Voyons, tu ne sais en réalité, tu n'as même pas complété tes études primaires. Tout ce que tu sais faire, c'est labourer. Alors, tu ferais mieux de rester ici et peut-être obtenir ta licence en lettres, tu vois. Tu ferais mieux de rester et d'obtenir ton diplôme. Mais pas Élisée, pas cet homme qui avait touché Dieu une fois, qui avait senti cette puissance de l'onction sur lui. Il a dit, « L'Éternel est vivant et ton âme ne mourra jamais. Je ne te quitterai point. » Il avait un but, il avait vu la vision, il savait ce qui allait se produire. Et ils sont tous les deux allés au Jourdain. Le Jourdain, ça veut dire la mort. Ils sont là, le vieil homme et le jeune homme. En réalité, ça représente Christ et son Église. Et ils étaient là, près du Jourdain. Voilà cette eau qui descend des collines de la Judée, les grands rapides qui mugissent comme ça. Et Élisée, ses cheveux gris qui lui descendaient dans le dos, et ses yeux âgés, obscurcis, qui regardaient de l'autre côté du Jourdain. Et le jeune homme qui guettait chacun de ses mouvements. L'un, le jeune homme, attendait une vision pour exécuter la volonté de Dieu. L'autre rentrait à la maison. Ils étaient tous les deux au Jourdain. Élisée, quant à lui, il rentre à la maison. Élisée avait eu une vie pénible. Cette femme prédicateur là-bas, elle lui avait mené la vie dure, Jézabel et Achab. Et les pierres, et tout ce qu'il avait enduré, Élisée se sentait fatigué. Et il savait qu'il avait combattu un bon combat, et qu'il avait achevé la course. Juste de l'autre côté du Jourdain, il serait à la retraite. Mais Élisée guettait cet esprit qui était sur lui. Alors, si vous remarquez, chaque croyant, quand vous en serez au point où vous devez vous défaire de tout, vous sentirez les vagues froides du Jourdain clapoter contre vos pieds. Allez-vous traverser ou n'allez-vous pas traverser? Le Jourdain, c'est la séparation, se séparer. Et debout là-bas sur la colline, il y avait encore ces prédicateurs qui criaient très fort à Élisée. « Tu ferais mieux de ne pas traverser, tu vas aller trop loin. » On en entend de ces réflexions-là encore aujourd'hui. Mais Élisée a dit, « Si Dieu est Dieu et que c'est là son prophète, c'est moi qui dois le remplacer. Et pour le faire, j'ai besoin de son esprit. Je n'ai pas besoin de leur école. Si leur école avait fait l'affaire, c'est eux qui le remplaceraient. Mais c'est moi que Dieu a appelé à le faire et j'ai besoin de son esprit. » Si les écoles ecclésiastiques avaient eu à prendre la place et la puissance que Jésus a offerte, elles l'auraient prise il y a des années. Les méthodistes, les baptistes, les catholiques, les presbytériens, mais elles ne le feront jamais. Il faut l'esprit de Jésus-Christ. Et vous traverserez le Jourdain, toutes les dénominations derrière et tout le reste. Et vous vous tiendrez seul avec Dieu. Alors, il s'est tenu là avec lui, au Jourdain. Élisée levait les yeux. Il savait que quelque part de l'autre côté, Dieu allait le rencontrer. Il a enlevé son manteau et il a tourné le regard vers le jeune homme et il a frappé le Jourdain. Et à ce moment-là, le Jourdain s'est ouvert et ils l'ont traversé à sec. Voyez-vous, le Jourdain n'est pas si terrible après tout. S'il y a quelque chose avec vous pour dégager la voie. Oh, quand ils sont arrivés de l'autre côté, attachés à chaque buisson, il y avait un cheval et un char. Le roi des rois avait envoyé une escorte pour faire monter Élie à la maison. C'était fini pour Élie. Il en avait eu assez, environ 80 et quelques années, à argumenter avec ces gens là-bas et à devoir endurer la faim et les disputes et tout le reste. Il était prêt à rentrer à la maison et il a tourné le regard vers Élisée. Élisée, lui, il voulait voir une vision. Oh, il aurait bien pu s'y arrêter à toute cette instruction là-bas. Il aurait bien pu s'arrêter là-bas. Ça ne les menait à rien. Dieu allait le former à sa manière à lui. Alors, quand il a regardé là, qu'il a regardé tous ces buissons attachés là, ces chars de feu et ces chevaux de feu, cela a eu un effet sur Élisée. Il a vu une vision. Oui, frère. Quand Dieu a eu fait monter Élie, il est reparti avec une double portion de son esprit. Alors, il était prêt pour le réveil. Remarquez, alors cet homme, qui n'avait été qu'un jeune laboureur avant ça, Dieu a rendu son nom immortel. Tous les prophètes qui se tenaient là, qui l'observaient, ils ont été forcés de se prosterner devant lui parce qu'il avait la puissance de Dieu sur lui. L'heure vient où Dieu forcera le monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut, qui ont traversé le Jourdain et se sont séparés des choses du monde. Frères et sœurs, ce soir, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, traversez le Jourdain avec Dieu, passez de l'autre côté et séparez-vous, laissez le monde derrière vous. Laissez Dieu vous former pour que vous soyez à son service à lui. Nous vivons au jour qui précède ce réveil, mais Dieu est à la recherche. Il cherche à trouver des cœurs. Regardez, il a trouvé un homme qui s'appelait Paul, oh, un pharisien prétentieux, mais il a été obligé de le tabasser un peu, comme on dit, avant qu'il puisse devenir un disciple. Regardez ce qu'il a fait tout au long des âges aux hommes. Il a été obligé de les prendre et d'extraire d'eux tout ce qu'ils avaient comme théologie. Et Paul, dès qu'il a vu la vision, il n'est pas monté à Jérusalem voir Gamaliel, le grand docteur, le plus grand en Israël, celui qu'il avait instruit. Il n'est jamais retourné vers lui pour le consulter. Allons, ce n'est que 14 ans plus tard qu'il est retourné à Jérusalem. Mais il est descendu en Égypte à une réunion de prière. Là, Dieu lui a permis d'écrire un grand nombre des livres du Nouveau Testament. Voyez, Dieu cherche des hommes. Il y avait quelqu'un qu'il voulait utiliser pour écrire ce testament. Alors, il a simplement choisi Paul et il a fait sortir de lui tout ce qu'il avait comme théologie. Et Paul a dit qu'il lui avait fallu oublier tout ce qu'il avait appris jusque-là pour connaître Christ. Dieu, aujourd'hui, il essaie de nous vider de tout ce qui est du monde, de nous amener à nous vider complètement et à être des hommes et des femmes sans peur, qui aiment Dieu et qui vont rester avec Dieu, qui vont franchir la ligne de séparation, le Jourdain, afin qu'il puisse nous utiliser pour sa gloire. C'est maintenant l'heure où je veux que vous réfléchissiez sérieusement. Si vous n'avez jamais traversé ce lieu-là, si vous n'avez jamais franchi cette ligne-là, que vous dites encore, « Eh bien, ma mère faisait partie de telle église. » C'est bien. Ça ne prend pas votre place à vous, voyez. Dieu appelle des hommes et des femmes aujourd'hui à se placer au front de bataille. Il ne les appelle pas à aller à Gilgal, et il ne les appelle pas à aller à Jéricho non plus, ni à Bethel. Ceux-là périront, mais il les appelle à traverser le Jourdain, pour qu'il puisse vous faire entrer à l'école de sa puissance, à lui, vous former et vous façonner. Regardez ce qu'il fait ici même, maintenant. Il fait descendre l'esprit de son Fils. Il accomplit des signes, des prodiges et des miracles, ce que le monde n'avait pas vu dans les derniers 2000 ans. Le monde scientifique en a pris la photo. La colonne de feu, l'ange du Seigneur, elle est accrochée à Washington, D.C. ce soir, dans la galerie de l'art religieux, le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié avec preuves scientifiques. Il produit ces mêmes signes et prodiges. Qu'est-ce que c'est? C'est de traverser le Jourdain. de vous retrouver seul avec Dieu, de rester là, dans la fournaise de son affinerie à lui, de vous mettre sur le grand tour du maître potier et de le laisser vous façonner. Ce soir, alors que nous sommes en prière, alors que nous venons à ce lieu-là, mettez-vous là sur son tour et dites, « Seigneur, me voici, façonne-moi et forme-moi à ta manière à toi. » Et Dieu le fera. Pendant que nous courbons la tête un petit instant pour un mot de prière, juste avant de prier, je voudrais poser cette question aux gens qui sont à l'intérieur et à l'extérieur. Combien ici, sincèrement, aimeraient aller avec Jésus au Jourdain ce soir et traverser vers un lieu où vous pourrez voir une vision et voir ce qu'il en est vraiment de Dieu? Voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse. Regardez donc, je pense qu'il doit y avoir 200 mains dans ce bâtiment qui se sont levées. Descendre au Jourdain, pas au séminaire. Élisée est passé là-bas sans s'arrêter. Il disait, « Reste ici !» Il a dit, « Je ne veux pas, ça c'est fait de main d'homme. Ah, ça n'étanchera jamais cette soif d'un homme qui a soif de Dieu. » Aucune expérience de séminaire, aucun diplôme en lettres, ni rien d'autre n'arrivera jamais, jamais à étancher cette soif tant que vous n'aurez pas bu à la source de la vie. Vous qui avez levé la main, priez avec moi maintenant. Dieu bien-aimé, pendant ces quelques minutes de service, des hommes et des hommes debout le long des murs, des garçons et des filles, et à l'extérieur, appuyés contre les fenêtres. Il fait chaud, mais malgré tout, il y a quelque chose en eux. Tu as attiré leur attention, sinon ils se seraient éloignés. Ils ne seraient pas restés là, debout, comme ça. Seigneur Dieu, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont que des êtres humains. Et nous avons lu dans le journal que l'un de nos honorables anciens maires, en écoutant parler le vice-président, a été emporté. Un autre, à un match de baseball l'autre soir, un homme célèbre est parti subitement. Et leur âme est quelque part ce soir. Oh Dieu, nous aurons à passer par là un jour. Peut-être pas de la même manière, mais nous devons partir. Alors permets que les hommes reprennent leur sens et qu'ils se rendent compte que de faire partie de l'Église, sans plus, ce n'est pas ça que tu exiges. Tu veux que les hommes soient remplis de l'Esprit, nés, taillés, gravés par le feu du Saint-Esprit, marqués au fer rouge. Des hommes qui ont franchi la ligne, des hommes appelés de Dieu. Et nous croyons que tu enverras le réveil que Billy Graham et beaucoup d'autres réclament par la prière. Quand tu auras amené des hommes à se retrouver seuls, loin de leur école de théologie, loin de leur manière prétentieuse, des hommes sans peur, des hommes qui font preuve de caractère quand il s'agit de toi, qui croient en toi et qui te prennent au mot. Oh Dieu, que beaucoup de ceux qui sont ici présents en ce moment acceptent de donner tout ce qu'ils ont au Seigneur Jésus et de se défaire complètement du monde. D'aller plus loin que Gilgal, le lieu de la confession et du départ chrétien. Aller plus loin que l'école des prophètes qui sont installés là avec leur théologie. Aller jusqu'au Jourdain, vers une vision ouverte, quand ils auront traversé, constater que le Dieu vivant vit encore. Plus tard, nous voyons que ce prophète a regardé tout autour de lui, et il y avait là ces mêmes anges de feu et ces mêmes chars à Dothan un jour. Ils sont encore ici ce soir, Seigneur. Appelle tes hommes, appelle tes femmes, tes garçons, tes filles, Seigneur. Adresse des paroles de paix à leur cœur et qu'ils traversent de l'autre côté des choses du monde, car nous le demandons au nom de Jésus et à cause de lui. Amen. Je voudrais chanter ça un petit instant, très doucement, en adoration. Jésus, doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Tous en cœur maintenant, dans l'adoration.
Now dedicate yourself to that song. Bow that song to God.
Doucement maintenant, en adoration maintenant, ne regardez pas autour de vous, regardez seulement vers Dieu. Que ce soit vraiment certain. Je pense que ce serait vraiment bien. Aimez-vous adorer? Le message est terminé maintenant. Adorons donc, pendant une minute, avec nos têtes inclinées, ce chant de nouveau, que ça vienne vraiment de votre cœur. Seigneur, accorde ceci, depuis ses petits-enfants jusqu'à l'homme et la femme les plus âgés, que tous ceux qui sont dans ta présence divine, que le Saint-Esprit, à l'instant même, agisse sur leur foi et enlève tous les doutes, tous les petits échecs, et qu'ils soient façonnés selon ta volonté. Pendant qu'ils sont sur ton grand tour de potier, nous remettons nos âmes pour une consécration, un remodelage. Accorde-le, ô Dieu, au nom de Jésus ton Fils. Amen. J'aime vraiment ça, pas vous? Dans la tranquillité, ressentir le Saint-Esprit. Oh, après un message dur, ensuite cette douceur du Saint-Esprit, cela vient de la parole. Je vais chanter un couplet de ça, du moins je vais essayer.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost Gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish all that's done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel. And its crimson flood. All together.
Tous en cœur maintenant.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
What were they? Qu'est-ce qu'ils ont été? Des hommes que Dieu a formés et appelés. Comment Dieu pourrait-il jamais utiliser un lâche pour mettre sa parole en lui? Il a peur. C'est pour cette raison qu'ils en ignorent tout. Des hommes qui n'ont pas peur, que Dieu a circoncis par le Saint-Esprit. Dieu vit en dedans. Pour lui, qu'ils doivent sceller son sang ou pas, que lui importe. Sceller son témoignage avec son sang, ça lui est égal. C'est pour Christ qu'il vit. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. C'était leur sentiment là-dessus. Amen. Maintenant, c'est le moment de la ligne de prière. Ce sera une ligne de prière qui commence tôt. Il est tout juste 8h20. Mais nous voulons prier pour les gens. Et maintenant, je voudrais que vous, ceci, toute la prédication que nous pourrions faire ne pourrait se comparer avec une seule parole prononcée par Dieu lui-même. Maintenant, pour commencer la ligne de prière, et nous avons promis de prier pour tous, c'est ce que nous ferons, Dieu voulant. Chaque soir, nous avons distribué des cartes de prière, et là-dessus, nous disions que chaque soir, nous appelions un groupe de gens parmi celles-là pour le discernement. Mais les gens, alors, certains d'entre eux repartaient le même soir. Nous avions une réunion formidable. L'Esprit descendait et les gens repartaient. Le lendemain soir, il fallait en distribuer d'autres. Si je ne me trompe pas, n'est-ce pas Fanny Wilson que je suis en train de regarder au fond là-bas? Je me rappelle avoir emmené cette femme il y a environ 17, oh, plus que ça, environ 20, en 1932. Elle se mourait de la tuberculose, et le médecin de cette ville l'avait condamnée. Et elle avait fait une hémorragie, au point que les couvertures et tout étaient imbibées de sang. Son mari et sa fille sont venus me chercher un matin. Je suis allé là-bas, et j'ai invoqué sur elle le nom du Seigneur Jésus. C'est peut-être quelques jours plus tard, par un froid hivernal, que je l'ai baptisée au nom du Seigneur Jésus à la rivière. Et elle est retournée sur la route à l'arrière d'un vieux camion à bétail, trempée jusqu'aux os. Elle vit encore ce soir parce que Christ a accompli cela. C'est la première fois que je la vois depuis bien des années. C'est en promenant mon regard sur l'auditoire que je l'ai vue. Dieu vit toujours, c'est vrai. Et il a dit, « Parce que je vis, vous pouvez vivre aussi. » Maintenant, j'aimerais vous préciser un peu de quoi il s'agit ici, parce que sinon, alors vous pourriez repartir en disant, « Eh bien, ça, je ne comprends pas. » Maintenant, ce que je soutiens, c'est que Jésus-Christ est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, s'il est le même, il doit être le même dans tous les éléments qui le constituent, le même dans sa puissance, le même dans sa force, le même dans tout ce qu'il était. Et quand il était ici sur terre, à un moment donné, quelques Grecs sont venus et ils ont dit, « Messieurs, nous voudrions voir Jésus. » Et je crois que c'est le désir de tout homme ou toute femme qui ont jamais entendu parler de Jésus, ils veulent le voir. Et s'il n'est pas le même, alors nous ne pouvons pas le voir. Mais s'il est le même, nous pouvons le voir. Sinon, il aurait dit quelque chose de faux. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je, le pronom personnel, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Et puis, Jésus a promis d'être dans son Église à faire les mêmes choses qu'il avait faites à l'époque, jusqu'à la fin de l'âge. Or, il a dit, un peu de temps, le monde ne le verrait plus. Eh bien, alors, comment ferions-nous pour le voir? Il faudrait que nous voyions son esprit s'il est en nous. Il faudrait que cet esprit fasse la même chose que ce qu'il avait fait à l'époque, sinon ce ne serait pas le même esprit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et si nous portons, si le sarment est attaché au cep, le sarment portera le genre de fruit que lui fait produire le cep. Eh bien, le premier cep qui est sorti, le premier sarment qui est sorti du cep, c'était un sarment de Pentecôte. Vision, puissance, guérison, baptême du Saint-Esprit, grands signes et prodiges, le sarment suivant devra être un sarment de la même espèce. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, ils devront être pareils. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, voyons ce qu'il était hier. Si nous pouvons découvrir ce qu'il était hier, maintenant j'abrège à cause de l'heure. Je vais donner environ 5 minutes d'instruction. Et si nous pouvons voir ce qu'il était hier, alors nous pourrons voir ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera éternellement. Vous êtes d'accord là-dessus? Maintenant, quand il était ici sur terre, il est venu comme Messie. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il n'avait encore fait aucune œuvre et il s'est engagé dans son ministère du début. À qui avait-il été envoyé? Aux Juifs. Or, nous comprenons bien qu'il n'y a que 3 nationalités de gens dans le monde. Ce sont les Juifs, les Gentils et les Samaritains, c'est-à-dire le peuple de Cam, de Sem et de Japhet. Les Juifs, les Gentils et la Samarie. Vous vous souvenez? Pierre, qui avait les clés du royaume, leur a lancé un appel le jour de la Pentecôte aux Juifs. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Philippe est allé prêcher aux Samaritains. Ils ont tous cru et ils se sont repentis et ils avaient déjà été baptisés au nom de Jésus-Christ. Seulement le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Pierre avait les clés. Il est allé leur imposer les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ensuite, Corneille, qui était une personne des nations, il a une vision comme quoi il devait envoyer chercher un homme du nom de Pierre, Simon Pierre, qui était logé chez un homme qui était corroyeur. Et quand Pierre est arrivé là-bas, comme Pierre prononçait encore ses mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. Alors Pierre a dit, « Quelqu'un pourrait-il refuser l'eau? Ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu au commencement. » Tous les sarments qui sortent sont exactement pareils. Voyez? Maintenant, quand Jésus a rencontré, or, il n'est pas venu vers les gens des nations. Combien savent ça? Il a interdit à ses disciples d'aller vers les gens des nations. Combien savent ça? N'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, aux brebis perdues d'Israël. Or, qui attendait sa venue à cette époque-là? pas les gens des nations, nous étions des païens, des anglo-saxons. Nous étions des Romains, nous adorions le soleil et tout. Nous n'attendions pas du tout un Messie. Mais les Juifs et les Samaritains, eux, oui. Maintenant, comment s'est-il fait connaître aux gens qui l'attendaient? Reportons-nous maintenant à Jean, chapitre 1, et seulement pour un instant maintenant, et écoutez attentivement. Le premier Juif qu'on lui a amené, quand Philippe ou André s'est converti, et qu'il est allé trouver son frère, Simon-Pierre, il a amené Simon devant Jésus, et Jésus lui a dit quel était son nom et ce qu'était son père. Combien savent ça? D'après vous, quel effet est-ce que ça a produit sur cet homme qui, plus tard, allait avoir les clés du royaume dans sa main? Ainsi, il a prouvé qu'il était le Messie. Sans tarder, alors, Philippe s'est converti et est allé trouver Nathanaël. Ça, c'est un trajet de 30 milles de l'autre côté de la montagne. Il est arrivé à la maison et je peux l'entendre dire, « Oh, Madame Nathanaël, où est Nathanaël? Oh, il est dans l'oliveraie. Il est allé là-bas à toute vitesse. Nathanaël, où es-tu? » Et il l'a trouvé sous un arbre. Nathanaël priait. Il a attendu qu'il ait fini de prier. Et il a dit, non pas, « Bonjour Nathanaël, comment vas-tu? Comment vont les récoltes? » Oh, il avait un message. C'est pareil pour tout homme qui a rencontré Jésus. Il ne perd pas son temps à des futilités. Il a dit, « Viens voir qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Et maintenant, je peux voir Nathanaël secouer ses vêtements, vu qu'il avait été en prière. Il a dit, « Allons, Philippe, à ma connaissance, tu as toujours été un brave homme et un homme honnête. Allons, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Eh bien, tu sais, si le Messie venait, c'est à Jérusalem qu'il viendrait. Il viendrait de l'Église. C'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Voyez, il viendrait de Jérusalem. Caïphe n'a pas du tout annoncé ça à la dernière réunion. De même, aucun des théologiens n'a annoncé ça. Alors, à ma connaissance, tu as toujours été un homme honnête. Aurais-tu perdu le nord? Oh non, viens donc voir. Il a dit, est-ce quelque chose de bon? Il lui a donné la meilleure réponse qu'un homme aurait pu lui donner. Il a dit, viens voir toi-même. Maintenant, alors qu'il faisait route, je peux entendre Nathanaël dire, ou Philippe dire à Nathanaël, « Sais-tu quoi? Tu te souviens de ce brave pêcheur là-bas qui n'avait même pas su signer le reçu quand tu lui avais donné acheter du poisson? » Oui, je crois qu'il s'appelait Simon. Oui, c'est ça. L'autre jour, je l'ai emmené devant ce Messie, et dès qu'il l'a vu, il a dit, « Tu t'appelles Simon, ton père s'appelle Jonas. » Et ça ne m'étonnerait pas quand tu vas te présenter devant lui qu'il te dise qui tu es. Il a dit, ah là, attends une minute, pas moi. Alors le lendemain, ils sont arrivés. Et c'était pendant que Jésus faisait la ligne de prière. Comme d'habitude, il priait pour les malades. Et quand il s'est avancé et il est allé dans l'auditoire, Jésus a levé les yeux et il a vu venir Philippe qui emmenait un homme dans l'allée. Et il l'a regardé, il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. N'est-ce pas que c'est bizarre comme doctrine? Ça, c'était Jésus hier. C'est Jésus aujourd'hui, s'il est le même. Et cet homme s'est arrêté. Je peux voir Nathanaël. Philippe lui donne un coup de coude. Il dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Il a dit, Rabbi, ce qui veut dire docteur, ou le nom qu'on donnerait à ça aujourd'hui, vous savez. En fait, le vrai mot en hébreu, ça veut dire docteur. Il a dit, Rabbi, comment m'as-tu déjà vu? Comment sais-tu quoi que ce soit à mon sujet? Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Comment sais-tu que je suis un Israélite? Comment sais-tu que je suis juste, honnête et franc? Tu ne m'as jamais vu de ta vie. Comment se fait-il que tu me connaisses? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. À 30 milles de l'autre côté de la montagne, la veille, quels yeux! Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Si les Juifs ont reconnu ça, maintenant, attendez, ça, c'était les Juifs élus. Combien croient à l'élection? Oh, il y a bien des gens qui ne le recevront jamais. Voyez, la Bible le dit. Mais cet homme avait l'Esprit de Dieu en lui, et il l'a confessé. Il a dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Mais les théologiens de l'époque, les sacrificateurs et les grands docteurs, ils étaient là à l'écouter. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est un diseur de bonne aventure. Il a l'esprit de Belzébul sur lui. Jésus, ils ne l'ont jamais dit à haute voix. Non, non. Mais Jésus s'est retourné et il les a regardés. Il a dit, vous pouvez m'appeler ainsi et vous en tirer. Mais il viendra un temps où le Saint-Esprit viendra. Et alors, quand vous prononcerez une seule parole contre lui, alors qu'il fera la même chose, ce ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors là, qu'est-ce que nous avons sur les bras? Ça, c'était les Juifs véritables, honnêtes. Ceux-là ont cru qu'il était le Messie. Les docteurs et les théologiens, qu'est-ce qu'ils étaient? La semence du serpent, comme nous l'avons vu. Il a dit, vous avez pour père le diable. Pourtant, c'était des hommes intelligents, brillants, saints. Ils n'auraient pas touché à une paille. Saints. Ils n'auraient pas violé le sabbat. Ils n'auraient pas mangé de viande. C'était des hommes saints, mais ils n'ont pas vu ce qu'il en était. Voyez-vous, ils avaient été formés par l'homme. Dieu forme ses hommes pour qu'ils soient solides. C'est exact. Des hommes appelés de Dieu. Alors, un jour, ça, c'est ce que les Juifs en ont pensé. C'est de cette façon-là qu'il s'est fait connaître aux Juifs. Combien savent que c'est ce que dit l'Écriture? Bien. Maintenant, s'il s'est fait connaître aux Juifs, ça, c'était Jésus hier, avec les Juifs. Maintenant, vous dites, les Samaritains attendaient sa venue. Oui, effectivement, mais pas les gens des nations, seulement les Samaritains. Et la première fois qu'il a rencontré les Samaritains, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il s'est arrêté et il a envoyé ses disciples chercher de la nourriture, vers midi. Il s'est assis au bord d'un puits. Une femme est arrivée. Elle s'est mise à... Bon, nous, dans notre pays, on la considérerait comme une femme de mauvaise vie. Une fille de trottoir, vous savez, une prostituée. Donc, elle est arrivée, elle s'est mise à faire descendre le seau dans le puits pour puiser de l'eau. Et elle a entendu une voix qui disait... « Femme, apporte-moi à boire. » Elle a regardé par là, et un juif d'un certain âge était assis. Il avait à peine une trentaine d'années, mais la Bible dit qu'il en paraissait 50. Il disait, « Tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans, et tu dis que tu as vu Abraham ?» Il a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Voyez, il devait paraître vieux à cause de son travail, son corps humain. Et elle a regardé par là, elle savait qu'il était juif. Elle a dit, « Monsieur, vous n'avez pas coutume, vous les Juifs, de demander ce genre de choses-là aux Samaritains. Nous n'avons pas de relation entre nous. » Il a dit, « Femme, si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Et je t'apporterai, te donnerai de l'eau qu'on ne vient pas puiser ici. » Qu'est-ce qu'il était en train de faire? De contacter son esprit, voyez? Regardez bien, il va se faire connaître aux Samaritains maintenant. Et elle a dit, « Mais tu dis, adorez à Jérusalem. Nous, nous disons, sur cette montagne. » Il a dit, « L'heure vient et elle est déjà venue, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez Dieu, mais en esprit et en vérité. » C'est ce que le Père recherche. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? De capter son esprit. Et au bout d'un moment, quand il a trouvé quel était son problème, combien savent quel était son problème? Elle avait eu 5 maris, elle vivait avec le 6e. Alors il a dit, « Femme, va chercher ton mari et viens ici. » Elle a dit, « Je n'ai pas de mari. » Il a dit, « C'est exact. Tu en as. On a eu 5. Et celui avec lequel tu vis maintenant, ce n'est pas le tien. » Elle s'est arrêtée, elle l'a regardé. Or, elle n'a pas dit, « Tu es Belzébul, monsieur. Tu es un diseur de bonne aventure. » Elle en savait plus long sur Dieu que la moitié des prédicateurs de Jeffersonville. C'est vrai, elle qui était une prostituée. Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Regardez bien, un prophète. Et si vous allez chercher les références pour ce mot, vous le verrez. C'est le prophète dont Moïse avait annoncé la venue. Voyez-vous, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Elle a dit, « Je vois que tu es prophète. » Elle savait qu'il n'y avait aucun autre moyen qu'il sache ces choses. Il n'aurait pas pu savoir. Elle a dit, « Je vois que tu es prophète. » Maintenant, écoutez ceci. Nous, les Samaritains, pas les Juifs là, les Samaritains, nous savons que le Messie, quand il sera venu, il nous annoncera ces choses. Voyez-vous quel genre de signe ils attendaient? Le signe du Messie. Le Messie, quand il sera venu, il nous annoncera ces choses. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Elle a laissé tomber sa cruche et elle est allée à la ville en courant. Elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Messie? Si c'était le signe du Messie en ce temps-là, il faut que ce soit le signe du Messie aujourd'hui. S'il est, maintenant souvenez-vous, il n'y a pas eu une seule fois où ce miracle a été accompli devant une personne des nations. C'était interdit. Pourquoi? Les gens des nations ont eu 2000 ans d'églisologie. Mais maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. Et la Russie, les communistes, ont même une bombe dirigée droit vers vous pour y mettre fin. Ne vous en faites pas, ça va venir. La Bible l'a dit. Elle arrivera avec votre nom écrit dessus. Et en une seconde, elle sera réduite en poussière. Toute la nation le sera. Ce sera l'anéantissement total. Remarquez, et c'est l'action de Dieu. Je sais que chez eux, c'est un monarque qui a toute liberté, qu'ils sont une bande de païens. Mais est-ce que Dieu n'a pas suscité les nations païennes pour mettre Israël au pas dans le passé? La Bible déclare que la Russie et le communisme font tout simplement le jeu de Dieu pour exterminer carrément les gens de la face de la terre. Mais avant que cela puisse se produire, l'enlèvement aura lieu et on portera l'église à la maison avant que cela puisse se produire. Et si c'est proche à ce point-là, combien proche est l'enlèvement? Encore plus proche. Alors, vous voyez pourquoi je prêche comme je le fais, alors que je lutte de toutes mes forces, alors que Dieu fait tout ce qu'il peut afin de faire pénétrer cela dans les élus, de faire sortir de là la semence de la femme, pour que la semence du serpent puisse recevoir le châtiment. C'est tout à fait exact, c'est ce qu'il a promis de faire. Maintenant, si Jésus s'est fait connaître devant les Juifs, et devant les Samaritains par ces signes-là, et qu'il nous laisse aller comme ça, sans manifester le même signe devant nous, alors il est injuste. S'il nous laisse nous en tirer comme ça, simplement en disant, nous sommes méthodistes, nous sommes baptistes, nous sommes catholiques, nous sommes presbytériens, non monsieur, il nous laisserait nous en tirer avec une théologie froide. Il faut qu'il vienne avec des signes, des prodiges, exactement comme il l'a fait la première fois, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes arrivés à ce jour-là. Nous y sommes maintenant. La Bible, le témoignage, l'esprit, la science, tout est là pour prouver que nous en sommes là. J'aimerais avoir la force d'enfoncer ça dans les gens, de le leur faire voir. Vous, les gens de Jeffersonville, ici, vous êtes ma famille. J'ai grandi avec vous et je vous aime. Ne pensez pas que je suis un fanatique. Est-ce que c'est ça que vous pensez des prédictions qui ont été faites? Retournez en arrière, à l'inondation de 37. Vous, les gens, quand vous avez ri, ici même à l'église, et que j'avais dit qu'il y en aurait 22 pieds de haut au-dessus de la rue Spring, 6 mois avant que ça arrive. Indiquez-moi une seule fois où quoi que ce soit aurait été dit, un ainsi dit le Seigneur, qui n'ait pas été l'exacte vérité. Indiquez-moi une seule chose qu'il aurait dite. Jamais, c'est la vérité. Et cela reste encore la vérité, et ce sera toujours la vérité. Maintenant, nous ne pouvons pas faire venir, il doit y avoir 100 de personnes ou plus qui sont ici pour qu'on prie pour elles. Nous ne pouvons pas les faire venir toutes du même coup. Nous en ferons venir autant que nous pourrons en même temps, et puis nous continuerons à les faire venir jusqu'à ce qu'elles soient toutes venues. Maintenant, je vais commencer, je crois, Billy Paul était ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est là-bas? Dites-lui de venir. Je veux voir ce qu'il en est, s'il a distribué. Tu as distribué quoi comme carte de prière? Les Q. La carte de prière, c'est Q. Regardez sur votre carte de prière. Il y a un Q dessus, de 1 à 100. Très bien. Nous ne pouvons pas les faire venir toutes en même temps, mais nous pouvons en faire venir un petit nombre à la fois, jusqu'à ce que nous les ayons toutes fait venir. Nous voulons que les gens viennent, un à un, jusqu'à ce qu'on ait prié pour tous. Maintenant, regardez, je veux que tout le monde, à l'intérieur et à l'extérieur, réfléchisse à ceci, au terme de ces réunions. Je remets cette église entre les mains du pasteur, frère Neuville. Je vous remets à lui, et lui à Dieu. Frère Neuville, ici, je vous invite tous à revenir. Frère Neuville est un soldat courageux. C'est un vrai serviteur de Christ, un ancien prédicateur méthodiste, je crois. Il a étudié au collège Asbury et il a été formé, il a étudié tous les théologiens au séminaire de théologie. Il a l'expérience de ce qu'ils enseignent. Mais un jour, il en était au point où il savait qu'il lui fallait recevoir autre chose et il a franchi la ligne. Il est le pasteur ici, un homme rempli de l'esprit, un vrai prédicateur, un vrai théologien. Et je vous demanderai, vous les gens de cette ville, de cette collectivité, si vous n'avez pas d'église et que vous voulez entendre le vrai évangile, venez écouter frère Neuville. Il prend position pour la même chose que moi. Absolument, un soldat vraiment courageux. Nous tous ici, nous aimons frère Neuville. Il y a longtemps qu'il est ici avec nous et nous l'aimons. Maintenant, si Jésus-Christ, par l'Esprit, revient ici ce soir et qu'il fait les mêmes choses qu'il avait faites pour les Juifs et les Samaritains quand il était ici sur terre, s'il fait la même chose pour vous, les gens des nations, combien d'entre vous diront « Je vais croire en lui de tout mon cœur et je vais l'accepter ici même ». Peu m'importe de quelle église vous faites partie, Sana, vous dites, voulez-vous que je cesse d'aller à l'église méthodiste? Non, monsieur. À l'église baptiste? Non, monsieur. Allez où vous voudrez, car Dieu a des enfants dans chacune de ces églises-là. Certainement qu'il en a, et vous êtes peut-être l'un d'entre eux, et je vous aime tout autant que si vous étiez un membre du Branham Tabernacle. Pour moi, ça ne change absolument rien. Ça, vous le savez, par mon ministère, partout. Je crois que Dieu aime ses enfants, quelle que soit la marque qu'ils affichent. C'est ce que vous êtes dans votre cœur qui compte. Mais nous vous invitons simplement à venir fraterniser. Vous serez les bienvenus parmi nous. Maintenant, tout le monde sait, et vous, les gens de Jeffersonville, vous le savez, après toutes ces choses si nombreuses qui ont été dites et faites et prédites, toutes, elles se sont accomplies aussi parfaitement que... Combien ici, de Jeffersonville, savent que c'est la vérité? Levez la main, ceux qui le savent, des alentours, là. Maintenant, vous qui n'êtes pas de la ville, vous voyez ce que je veux dire? Combien de ceux qui ne sont pas de la ville ont déjà assisté à mes réunions et ont vu les choses arriver de façon très précise, comme cela avait été dit? Levez la main pour les gens de Jeffersonville. Voyez, la Bible dit que par la bouche de deux ou de trois témoins, toute parole soit établie. Ça a fait le tour du monde. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Nous avons déjà tout entre nos mains, grâce au Seigneur Jésus. Il nous a donné toutes choses gratuitement. Maintenant, nous allons commencer la ligne de prière. Et si Jésus-Christ accomplit ici ce soir, maintenant, combien d'entre vous ont entendu parler de la photo du Seigneur Jésus, cette lumière? Vous en avez tous entendu parler, presque tous. Elle se trouve à Washington, D.C. Elle a été remise au meilleur homme qu'Edgar Hoover a eu ces dernières années, George G. Lacey, du service des empreintes digitales et documents. Nous avons sa signature là même sur son écrit, comme quoi, effectivement, il a dit qu'à un moment donné, il avait pensé que c'était de la psychologie, que je lisais dans les pensées des gens. Il a dit, « Mais, Monsieur Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne captera pas de la psychologie. » Il a dit, « La lumière a frappé l'objectif. » Et nous avons tout ça par écrit. Le document est fourni avec la photo. La lumière a frappé l'objectif. Combien sont encore vivants depuis la première fois qu'elle est apparue devant le genre humain, ici, à la rivière, alors que je baptisais des centaines de personnes là-bas, ce jour-là? Dans le bâtiment, levez la main. Il y a trois ou quatre mains, ceux qui sont encore vivants. Et ça, c'était il y a bien des années, ici à la rivière, quand elle est descendue et que le message du Seigneur est venu. Il est resté exactement le même. Est-ce qu'il a produit exactement ce qui avait été dit là, que le ministère que j'allais prêcher ferait naître un réveil dans le monde entier, juste avant la seconde venue du Christ? Regardez ce qu'il a produit, voyez? C'est de là que sont sortis Oral Roberts et tous ces autres, voyez? Et c'est allé partout dans le monde, vers toute nation, tout peuple, toute langue. Les feux du réveil brûlent, de grands services de guérison, voyez? Maintenant, tenez-vous prêts, à l'intérieur, à l'extérieur, où que vous soyez, recevez Christ. Voulez-vous le faire ce soir? Maintenant, je me remets dès maintenant entre les mains du Seigneur Jésus, pour que je puisse m'abandonner à l'Esprit, dans le seul but d'exalter Jésus-Christ. Non pas moi-même, mais Jésus-Christ, pour que ces gens, les gens de chez moi, mes amis, de la ville et de l'extérieur de la ville, sachent que l'Évangile que j'ai prêché, c'est l'absolue vérité. Et Christ est ici pour confirmer que c'est la vérité, par sa parole et par son Esprit. Il va falloir les appeler seulement un à la fois. Alors, il va falloir... Nous allons commencer par le numéro 1. Q numéro 1. Qui a celle-là? Si vous ne pouvez pas vous lever maintenant, les anciens vont vous porter. Nous voulons nous occuper de chacun de vous. Q numéro 1. Frère Hickerson, Billy Paul, ou... Attendez, Doc va l'aider ici.
Q numéro 1, would you raise up your hand?
Q numéro 1, voulez-vous lever la main? La personne qui a celle-là? Es-tu sûr que c'était bien Q? Ou, eh bien, oh, excusez-moi. Très bien, avancez-vous jusqu'ici. Montrez-lui comment par l'allée, là. Q numéro 1, très bien. Numéro 2, levez la main, s'il vous plaît. Très bien, une dame qui est assise par ici, tout au fond. Très bien, madame, venez, venez de ce côté-ci. Si vous voulez bien la laisser passer, les frères qui sont là vont l'aider, les huissiers et tout. Q numéro 3, levez la main. Numéro 3, voulez-vous lever la main, la personne qui a la carte Q numéro 3? Regardez si cette dame qui passe là, si c'est elle qui a la carte. Vous ne l'avez pas? Vous ne pouvez pas faire ça. Non, vous devez la garder et écouter les instructions. Nous allons nous occuper du petit quand même. Voyez, vous n'avez qu'à venir quand on appelle votre numéro à vous. Le petit pourra venir quand on l'appellera lui. Voyez, ça va. Numéro 1, 2, qui a le numéro 3? Levez la main. Numéro 3, numéro 4. Maintenant ça, c'était vraiment un beau geste de votre part, sœur. Qui que soit cette personne, cette dame qui voulait faire ça, voyez? Mais voyez-vous, si on appelle leur numéro, ils vont venir, simplement. Si on ne les appelle pas, nous allons nous en occuper quand même, voyez? Nous voulons que vous soyez exactement à votre place, pour que vous ayez votre place à vous aussi, voyez-vous? Voyez? Bien, numéro 3, numéro 4, numéro 5, Q numéro 5, levez-la, tout au fond, une jeune femme. Numéro 6, très bien, le jeune homme. Numéro 7, l'homme juste ici. Numéro 8, nous sommes obligés de procéder comme ceci. Voyez-vous, on ne pourrait pas y arriver. On se retrouverait tout entassé si on disait « tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux ». Je vais vous montrer quelque chose. Si vous voulez voir pourquoi nous sommes obligés de les mettre en ligne, tous ceux qui sont ici et qui aimeraient venir pour qu'on prie pour eux, levez la main, tout le monde, qui que vous soyez. Regardez-moi ça. Qui va venir en premier? Voyez, il faut qu'il y ait quelqu'un. Billy vient ici, il prend ses cartes, il les mélange devant vous, et il donne une carte de prière à tous ceux qui en veulent une. Vous pourriez avoir la 5, la 6, et parfois on commence ailleurs, mais ça ne change rien ça, par où on. Et puis ceux qui sont dans l'auditoire, en fait, ils sont guéris avant ceux qui sont sur l'estrade parfois. Combien savent ça? Ceux qui ne sont pas d'ici, aussi bien que ceux. Mais bien sûr, ça n'a rien à y voir. Numéro 6, celle-là y est-elle? Numéro 7, numéro 8, qui a la carte de prière numéro 8, elle y est déjà. Numéro 9, 8, numéro 8, nous voulons que vous y soyez, là, c'est peut-être quelqu'un à l'extérieur. Si c'est ça, que quelqu'un lève la main ou quelque chose comme ça, quelqu'un à l'extérieur qui n'a pas pu entrer. Numéro 8, Frère Collins, est-ce qu'il y aurait quelqu'un là-bas, la carte de prière numéro 8, qui essaie d'entrer? Très bien, la carte de prière numéro 8. Très bien, numéro 9. La carte de prière numéro 9, levez la main. Peut-être qu'ils sont sortis et qu'ils n'ont pas pu rentrer. S'ils entrent, mettez-les dans la ligne. Numéro 10, levez la main. L'homme qui est là-bas, tout au fond. Venez, monsieur. Je suis content de voir que vous avez été appelé. Vous étiez debout, là-bas, les jambes endolories. Numéro 10, numéro 11, levez la main. La personne qui a la carte de prière Q numéro 11. Très bien, 11. 12, Q numéro 12, tout au... Très bien, 12, 13, 13. Levez simplement la main, s'il vous plaît, pour que je puisse voir. La carte de prière 13, Q 13. 14, 14, 15. Combien de cartes as-tu distribué, Billy? 100? 13, 14 et 15 ne sont pas là. Les cartes de prière 13, 14 et 15. Êtes-vous ici? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Q d'abord et après ce sera J et ensuite on continuera comme ça les passer dans la ligne. Je pense qu'ils essayent de faire passer celle-là d'abord, voyez-vous? Une fois que nous aurons appelé celle-là, nous passerons aux autres au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous dites? C'est ça. Vous voyez, nous avons distribué les cartes de prière ce matin, et les gens, peut-être qu'ils ne sont pas revenus. Voyez? Bien, commençons avec ce petit nombre-là. Comment? Est-ce que tu as à peu près le nombre qu'il te faut dans la ligne, maintenant? Très bien. Maintenant, qui a 15, 16, 17, 18, 19 et 20 dans les Q? 21, 22, 23, 24, 25. Maintenant, tenez-vous simplement prêt. Aussitôt qu'ici, ce sera terminé. Notre ligne est pleine ici pour le moment. Ensuite, nous nous occuperons de celle-là, et ainsi de suite comme ça, pour toute la ligne. Et après, nous passerons tout de suite aux autres cartes, les J, là où nous nous étions arrêtés, et ainsi de suite comme ça, jusqu'à ce qu'elles soient toutes passées. Maintenant, soyez vraiment respectueux pendant quelques instants. Maintenant, j'aurais bien voulu qu'on ait assez de places assises. J'aurais bien voulu trouver un moyen d'avoir ça, mais on ne l'a pas. Mais maintenant, je voudrais que vous soyez aussi respectueux que possible. Bon, il est encore tôt. Il est 9h10. Le service sera terminé d'ici une demi-heure. Alors, c'est la fin du service. Et alors maintenant, soyez bien respectueux. Restez bien tranquille. Ne vous déplacez pas. Combien ici n'ont pas de carte de prière, mais vous voudriez quand même qu'on prie pour vous? Levez la main. Eh bien, vraiment, il y en a partout. Maintenant, si vous n'avez pas de carte de prière, je voudrais vous donner un passage de l'Écriture. À un moment donné, notre Seigneur s'en allait ressusciter une petite fille morte, qui n'était pas encore morte, la fille de Zachée. Et une femme s'est dit dans son cœur, « Je crois qu'il est un homme saint, je crois qu'il est le Messie. » Elle avait une perte de sang depuis plusieurs années. Elle s'est glissée à travers la foule et elle a touché son vêtement. Avez-vous déjà lu cette histoire? Et Jésus s'est arrêté. Il a dit, « Qui m'a touché ?» Et Pierre l'a réprimandé. Il a dit, « Eh bien, ils te touchent tous. Alors pourquoi dis-tu, qui m'a touché ?» Il a dit, « Je me suis affaibli. De la vertu, de la force est sortie de moi. » Vous voyez quel effet ça a sur vous? Une vision. Je me suis affaibli. De la force est sortie de moi. Et il a promené le regard sur l'auditoire jusqu'à ce qu'il trouve la femme. Elle était effrayée. Elle a pensé qu'elle avait fait quelque chose de mal. Mais il l'a regardée. Il lui a parlé de sa perte de sang. Et il a dit, « Ta foi t'a sauvée. » Combien savent que c'est la vérité? Maintenant, vous qui étudiez la Bible, est-ce que la Bible dit que Jésus-Christ, maintenant même, est un souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur, qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités? Combien savent ça? Eh bien, s'il est maintenant le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités, comment agirait-il s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il faudrait qu'il agisse de la même manière qu'en ce temps-là, pas vrai? Bon, eh bien maintenant, il n'a pas de corps physique, car celui-ci est à la droite de Dieu. Mais il a nos corps à nous, à travers lesquels il agit. Et c'est son esprit qui agit à travers nous, comme il l'avait dit. Je serai avec vous, en vous. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez davantage. Davantage. Car je m'en vais au Père. Il se tiendrait là, à notre place, voyez. Mais il nous oindrait de l'esprit. Maintenant, vous qui êtes dans l'auditoire, regardez donc par ici. Et ne me regardez pas seulement comme Frère Branham. Dites simplement, « Seigneur Jésus, tu es un souverain sacrificateur, et tu es dans ce bâtiment, et je voudrais que tu sois touché par mes infirmités. Alors que je te dis que je suis malade, donne-moi la confirmation, et fais que Frère Branham se retourne, comme par ton esprit, et qu'il me parle, comme tu as parlé à cette femme, ce sera réglé. Je mets votre foi au défi, au nom du Seigneur, de faire ça. » Maintenant, voyez si c'est vrai ou pas. Demandez-le à Dieu et voyez si ça ne se passera pas exactement comme ça. Maintenant, soyez vraiment respectueux. Maintenant, vous pouvez faire venir les patients. Ou, est-ce que c'était cet homme? Très bien. Le premier dans la ligne, dans cette partie de la ligne. Il y a beaucoup de monde ici. Nous essayons d'empêcher les gens de venir, les gens de Jeffersonville, de laisser venir seulement les gens qui ne sont pas de la ville, ceux qui se sont pressés en foule à l'entrée. En effet, dans une ligne de ce genre, si les personnes étaient d'ici, des environs de Jeffersonville, elles diraient, « Voyons, Frère Branham connaît ces gens-là. Bien sûr, c'est ça. » Mais évidemment, ils n'ont jamais été en Afrique, en Inde, et en Asie, et en Europe, et tout autour du monde, à d'autres endroits. Mais à ma connaissance, il n'y a. Je crois que tous ceux qui sont dans cette ligne ici en ce moment, il me semble bien que tous ces gens me sont inconnus. Est-ce que vous m'êtes tous inconnus? Levez simplement la main si c'est le cas. Bien. C'est bien. Combien dans l'auditoire me sont inconnus? Ou bien, vous savez que je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous. N'importe qui, peu importe qui c'est. Bien sûr que non, voyez-vous. Mais lui, oui. Maintenant, je ne dis pas qu'il le fera, mais s'il le fait, alors ça prouvera qu'il est présent ici même. Bon, cet homme-ci, je crois, a levé la main, comme quoi lui et moi, nous étions des inconnus l'un pour l'autre. Nous sommes des inconnus. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Il ne m'avait jamais vu de sa vie avant maintenant. Nous sommes entrés dans le bâtiment et nous nous sommes vus maintenant pour la première fois. Maintenant, voilà une image parfaite de Philippe qui va chercher Nathanaël et de Nathanaël qui se présente devant Jésus. Bon, non pas que lui soit Nathanaël ou moi Jésus. Maintenant, n'allez pas penser ça. Mais ça se passe des années plus tard, selon une promesse qui avait été faite en ce temps-là. Et ici, il y a deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés de leur vie, tout comme ces deux-là en ce temps-là. Et si Jésus est encore le même, il pourra abandonner son esprit à la foi, et je pourrai abandonner mon esprit à la foi, à Christ, par un don divin du Saint-Esprit, et le même miracle pourra s'accomplir. Pas vrai? Et c'est surnaturel. Vous dites, un miracle? Eh bien, comment pourrais-je savoir ces choses si je ne l'ai jamais vu? Je lève les mains. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Nous voici debout ici pour la première fois. Dieu le connaît, moi pas. Maintenant, rappelez-vous, soyez en prière pour moi. Maintenant, parfois, dans ces moments-là, l'Esprit oint, et il l'a fait là, à tel point que c'est un peu, je voudrais simplement que vous restiez bien tranquille. Soyez vraiment respectueux, regardez bien, soyez en prière. Maintenant, je voudrais simplement que vous, monsieur, je ne vous connais pas, mais vous êtes ici pour une raison que j'ignore. Mais quelle qu'elle soit, si le Seigneur Jésus me disait ce que vous voulez recevoir de lui, sans que vous me le disiez, ça prouverait qu'il est précisément ce que j'ai dit qu'il était, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le croyez-vous? Bien, il le croit. Et maintenant, l'auditoire le croit. Et le Seigneur a dit qu'il le ferait dans sa Bible. Maintenant, c'est ici qu'on verra, soit que je dis la vérité par la Bible de Dieu, soit que la Bible a fait une promesse qu'elle ne peut pas tenir, ou bien que je suis un hypocrite, l'un ou l'autre. Voyez, c'est vrai. Vous voyez dans quelle position on se retrouve? J'ai fait ça devant bien, bien des milliers de personnes, des critiqueurs et tout. Mais je sais qu'il fait la promesse et qu'il tient sa promesse. Je vois que cela commence ici même, maintenant. Je vois les gens qui sont autour de vous, sur les estrades, dans les réunions à l'extérieur. On ne laisse jamais personne se tenir autour. Voyez, il y a des malades ici. Aussitôt que cela commence, on peut le ressentir. C'est le Saint-Esprit. Soyez vraiment respectueux maintenant. Simplement respectueux maintenant, pour que nous puissions parler. Oui, monsieur, le Seigneur Jésus nous aime tous les deux, car nous sommes deux hommes pour lesquels il est mort. Et c'est la première fois que nous nous rencontrons. Si vous êtes dans le besoin, Dieu peut pourvoir à ce besoin, parce qu'il l'a promis. Mais maintenant, cet homme, s'il a le cœur honnête, il est conscient qu'il est en train de se passer quelque chose. Il ne peut pas se faire une idée exacte de ce que c'est. Mais cet ange que vous voyez sur la photo, il s'approche de plus en plus de cet homme, et celui-ci disparaît peu à peu devant mes yeux. Cet homme souffre du cœur, et il est atteint du diabète. C'est exact, c'est ainsi dit l'Esprit. Si c'est exact, levez la main. Maintenant, si je ne vous ai jamais vu, comment saurais-je quoi que ce soit à votre sujet? Par un moyen, par le même moyen qui le lui avait fait savoir là-bas, pas vrai? Est-ce que l'auditoire croit ça? Maintenant, pourquoi ne pas prendre notre temps, un tout petit peu, pour que vous voyez que ce n'était pas quelque chose que j'ai juste deviné? Prenons autre chose. Voyons si le Saint-Esprit voudra bien nous révéler autre chose. Parlons tout simplement à cet homme qui est là, pendant un instant. Peut-être qu'il y a autre chose dans sa vie. Peut-être qu'il y a autre chose qui ne va pas chez lui. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai dit. Il faudrait que je vérifie sur l'enregistrement ici. Parce que, voyez-vous, c'est une vision. On voit la situation de la personne. Oui, je le vois maintenant. C'est quelque chose qui a rapport à son sang. C'est du sucre. Oui, c'est du diabète. Il est atteint du diabète sucré, ce qui a engendré des problèmes cardiaques. Il a le cœur qui palpite. C'est causé par ça. Il y a un bout de temps qu'il a ça. Et il n'est pas de cette ville, mais il est de l'Indiana, d'un endroit situé près d'un endroit qui s'appelle quelque chose comme Borden. Je vois Borden. Vous êtes de Borden. C'est ainsi, dit le Seigneur. C'est ça. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Voici une autre chose. Je vois apparaître une femme ici, dans la vision, parce que vous êtes, c'est votre femme, et elle a besoin d'une guérison. Et elle souffre d'un genre de toux. C'est un problème d'asthme. Voilà ce qu'elle a. Et vous avez quelque chose qui ne va pas dans votre vie, que vous essayez de faire. Vous êtes de foi pentecôtiste, parce que vous, je vous vois à une réunion pentecôtiste où ils poussent des cris et tapent des mains. Et vous essayez de renoncer, vous fumez. C'est de ça que vous essayez de vous débarrasser, de fumer la cigarette. C'est tout à fait exact. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Voyez, croyez-vous qu'il est ici présent en ce moment? Êtes-vous prêt à accepter votre guérison? Courbons la tête. Seigneur Dieu, toi qui as ressuscité Jésus-Christ, qui est présent en ce moment,
Amen.
Cet homme, Seigneur, qui est ici pour que les bénédictions de Dieu reposent sur lui, nous te prions de lui donner ce que son cœur désire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Rentrez chez vous, allez constater qu'il en sera exactement comme vous l'avez cru. C'est ainsi qu'il en sera. Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous? Le Dieu Tout-Puissant qui a écrit cette Bible, dont l'Esprit est présent, sait qu'à ma connaissance, je n'ai jamais vu cet homme de ma vie avant cette minute même. Mais je sais une chose, le Saint-Esprit est ici même. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais je sais qu'il est ici. Est-ce que c'est cette dame? Très bien. Sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Bon, vous m'avez vu à des réunions, mais je ne vous connais pas. C'est exact. Très bien. Alors, vous êtes ici dans un but. Maintenant, il se pourrait que cette femme soit ici. Peut-être qu'elle est chrétienne. Peut-être que non. Peut-être que c'est une critiqueuse. Si oui, regardez bien ce qui va arriver. Voyez? Et je ne sais pas pourquoi elle est là. Ma mère est assise quelque part dans le bâtiment, une femme âgée. Pensez-vous que je voudrais lui faire du mal, la pauvre? Pensez-vous que je me présenterais devant elle comme un imposteur? Certainement pas. J'aimerais mieux descendre de l'estrade tout simplement et rentrer chez moi. Le message, je l'ai prêché, mais le message ne se limite pas qu'à ça. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe ce que le monde peut en dire, nous devons prendre position pour cela quand même. Dieu a dit de le faire. Je ne vous connais pas. Et naturellement, vous étiez assise à la réunion où il y avait peut-être des centaines et des centaines de personnes. Je n'aurais aucun moyen de vous reconnaître. Mais maintenant, voici une image de Jean 4. Un homme et une femme qui se rencontrent pour la première fois. Notre Seigneur est la femme de Samarie qui se rencontrent de nouveau. Bon, ils ont conversé, il a contacté son esprit, il a su ce qui n'allait pas chez elle, et il le lui a dit, et elle a reconnu qu'il était le Messie. Feriez-vous la même chose? Vous le feriez. Est-ce que l'auditoire fera la même chose? Toutes les femmes qui sont là-bas? Puisse Dieu l'accorder. Oui, cette femme souffre de nervosité. Il y a longtemps qu'elle a ça, depuis bien des années en arrière. Je peux la voir quand elle était encore une jeune femme, mais ce n'est pas ça la chose primordiale pour laquelle elle veut que je prie. C'est l'arthrite qui l'a rendue infirme. C'est pour ça que vous voulez que je prie. Maintenant, croyez-vous? Maintenant, parlons-lui encore un peu. Puisse le Saint-Esprit accorder ceci. Cette femme, en fait, elle est d'ascendance étrangère. Son nom est Hansen, c'est vrai. Norvégienne ou suédoise, l'un des deux. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous êtes d'un endroit qui s'appelle Canton. Et ça se trouve dans une grande région où il y a beaucoup de blé. C'est le Minnesota. Voilà d'où vous venez, c'est vrai. Maintenant, rentrez chez vous. vous êtes guéri. Jésus-Christ vous rétablit. Racontez aux gens les bonnes choses que le Seigneur a faites pour vous. Je pense bien que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas, non madame, mais le Seigneur, lui, il vous connaît. Vous êtes ici dans un but, je ne sais pas. Mais si le Seigneur Jésus me révèle ce pourquoi vous êtes ici, vous saurez si c'est la vérité. Si je venais là et que je dise, « Vous êtes malade, madame », c'est sûr, vous êtes dans la ligne de prière, ça montre que votre examen a révélé que vous avez un problème au foie. Il a dit que c'était une cirrhose, c'est exact. Parlons-lui donc une minute. Simplement, croyez-vous que le Seigneur Jésus qui a parlé à la femme au puits est le même Jésus aujourd'hui? Vous le croyez? Vous semblez avoir un très bon esprit. Vous n'êtes pas d'ici, vous venez de l'Est, de l'Ohio. C'est exact, c'est de Dayton, dans l'Ohio, que vous êtes venu. C'est exact. Je vois un... Vous priez pour quelqu'un d'autre. C'est un garçon. Il souffre du cœur. Il a aussi des ulcères. C'est un garçon de tempérament nerveux. C'est exact. Et vous priez pour son âme, parce qu'il n'est pas sauvé. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous êtes guéri. Retournez-vous-en. Dites-lui de prendre courage. Jésus-Christ. Je ne vous connais pas, madame. Je ne vous connais pas. Dieu, lui, il vous connaît. Si Dieu me dit quel est votre problème, croirez-vous que je suis son serviteur? Il s'agit seulement de confirmer que c'est lui. Voyez-vous, ce que je veux faire, c'est amener ces gens qui passent dans la ligne de prière à voir qu'il est ici. Il s'est passé quelque chose dans la réunion. Il y a deux femmes qui sont là. Elles portent toutes les deux des lunettes. Quelqu'un l'a touché. Il compatit aux infirmités de quelqu'un. Je pouvais seulement voir la femme. Vos problèmes d'oreilles sont terminés maintenant. Regardez la dame, comme elle ressemble à celle-ci. Elle se tenait là, je les voyais, mais il y en avait une qui faisait ceci, alors que celle-ci, il n'y avait rien. La raison de ça, c'est que cette femme-ci se tient là pour quelqu'un d'autre. C'est exact. Et cette femme, c'est votre voisine. Elle a de l'arthrite, et vous vous tenez là pour elle. Et je vous vois prier pour elle, parce qu'elle n'est pas sauvée. Et vous priez pour elle. C'est un beau geste. Mettez ce mouchoir sur elle, celui que vous avez à la main. Dites-lui de ne pas douter et d'abandonner sa vie à Christ. Et son arthrite s'en ira. Pourquoi pleurez-vous, sœur?
You believe God?
Vous croyez en Dieu? Croyez-vous que je suis son serviteur? Croyez-vous que Dieu peut me dire pourquoi vous pleurez? Et quel est votre désir? Si vous le croyez, levez la main. Croyez-vous que cette hernie s'en ira de lui?
Just have faith.
Si vous le croyez, elle partira. Ayez seulement la foi. Ne doutez pas, c'est tout. Bonjour. Je pense que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Le Seigneur Jésus nous connaît tous les deux. Vous êtes une femme vraiment jeune. Mais vous n'êtes pas ici pour vous-même. Je vois apparaître un hôpital, un lit. C'est votre mère. C'est pour elle que vous priez. Et elle est recouverte de l'ombre de la mort. Elle souffre de la vésicule biliaire, de tumeurs, et elle a aussi un cancer, une ombre noire, le cancer. Prenez ce mouchoir sur lequel vous pleurez, posez-le sur elle, et invoquez le nom du Seigneur, et ne doutez pas. Si vous ne doutez pas, Dieu la sortira de là, et la rétablira. Maintenant, ne doutez pas. Allez au nom du Seigneur et croyez. Êtes-vous convaincu que Christ vit? Il y a quelque chose tout... Oh, c'est cette femme qui est assise tout au fond, en arrière, là, sur ce siège. Elle souffre de maux de tête. Et elle priait le Seigneur, là. Elle essayait de s'occuper de cet enfant. Il vous a exaucé, sœur. C'est fini maintenant. Levez-vous simplement pour donner la louange à Dieu pour ça, madame. Donnez simplement la louange à Dieu pour ça. Voyez, qu'est-ce qu'elle a touché? Elle ne m'a jamais touché, mais elle a touché le souverain sacrificateur. Je ne connais pas cette femme. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais Dieu l'a guérie à l'instant même. Est-ce que ça prouve que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Bien sûr que oui. Si tu peux le croire, tout est possible à ceux qui croient. C'est dans l'auditoire maintenant, il y a quelqu'un qui prie. Voyez-vous, c'est selon l'endroit où la force prédomine, là où est l'esprit. Je ne peux que suivre et dire ce qu'il dit. Je ne sais pas. Oh, c'est la femme qui remet ses lunettes après avoir pleuré. La raison pour laquelle elle pleurait, c'est parce que l'esprit est sur elle. Le voilà. Ce problème intestinal qui vous a fait souffrir, ayez la foi, il s'en ira et ne reviendra jamais. Je ne connais pas cette femme. Je ne l'ai jamais vue. Elle ne m'a jamais touché. Elle a touché le souverain sacrificateur. Si tu peux le croire, il a saisi une autre femme. Tous ceux qui le veulent, je voudrais que vous regardiez par ici. Regardez cette femme qui pleure. Regardez l'autre femme qui est assise dans son état normal. Regardez l'autre femme assise à côté d'elle. Elle pleure. Elle souffrait du cœur. La petite dame qui est assise juste là, qui me regarde avec... Oui, c'est exact. Vous aviez des problèmes cardiaques, n'est-ce pas? Vous ne les avez plus. L'ardeur de votre foi a attiré Dieu et vous l'avez touché.
Oh, this is wonderful.
Oh, c'est formidable, ça.
Hallelujah.
Vous voyez cette dame qui est assise juste là? La tête baissée, en train de prier. Une femme aux cheveux gris, qui m'est inconnue, assise là. Oui, vous vous êtes retourné pour la regarder. Elle a des problèmes de vésicule biliaire. Elle a prié Dieu de lui enlever ça. Et là, vous étiez en train de prier. Seigneur, fais qu'il m'appelle. C'est exact. Si c'est exact, levez la main. Comment ai-je pu savoir quelle était votre prière? Vous ne les avez plus. Votre foi vous a guéri. Rentrez chez vous et soyez rétablis. Croyez-vous? Si tu peux le croire, tout est possible. Mais vous devez croire. Il se déplace toujours dans ce secteur-là, de ceux qui sont assis par là. Juste ici, la deuxième du bout de l'hypertension. Si vous le croyez de tout votre cœur, sœur, c'est fini. Croyez-vous en Dieu? Le prenez-vous au mot? Très bien, levez la main. C'est pour ça que vous priez. Seigneur, fais que je sois la prochaine qui l'appelle. J'ai de l'hypertension. Je vous suis inconnu. Si c'est vrai, faites signe de la main. Très bien, vous ne l'avez plus. Rentrez chez vous et soyez rétablis. Vous voyez ce que c'est? C'est la foi. Si vous pouvez le croire. Croyez-vous? Voyez-vous, ces gens sont là, sans carte de prière ni rien. Êtes-vous prêts à croire? Est-ce que c'est comme ça que le Seigneur Jésus agit quand il était sur terre? Tenez, est-ce que c'est celui-ci, l'homme qui est venu? Bien. Vous ne pouvez pas savoir quelles sont les répercussions, vous tous. Vous, du Branham Tabernacle maintenant, regardez un peu ici, le dessus de ma main. Voyez?
Vous savez que je ne suis pas comme ça d'habitude. Qu'est-ce que c'est?
L'Esprit du Seigneur, c'est l'onction. Bien des gens ne comprennent pas ce que c'est que l'onction. Ils pensent que c'est de pousser des cris. Ça, c'est la joie. La puissance, c'est quelque chose qui vient de façon solennelle. Voyez, ça, c'est la joie du Seigneur. Ceci, c'est la puissance du Seigneur. De guérir quelqu'un, de le rétablir. Regardez ce qu'il a fait pour cette petite fille qui était assise là, l'autre soir, infirme. Pour l'homme qui était aveugle. Pour les autres, d'un bout à l'autre, partout. Bonjour, monsieur. Je suppose que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Si c'est exact, levez la main. Très bien, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Respectueux, maintenant. Voici un homme, et lui et moi, beaucoup plus jeunes que moi. Nous avons les mains levées, l'un vers l'autre, devant Dieu, comme quoi c'est la première fois que nous nous rencontrons. Jésus connaît cet homme. Et il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Il se tient là, je ne sais pas. Mais si j'ai dit la vérité, et Dieu a confirmé par de nombreux témoins que je vous ai dit la vérité, que c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. C'est au temps passé. Vous devez vous approprier cette foi solide pour pouvoir monter au-dessus de ces choses. Regardez ce cancer qui est disparu ici ce soir. Maintenant, regardez bien les témoignages qui vont suivre. Ces ombres noires de la mort. Votre charmant docteur aura beau faire tout ce qu'il peut pour vous sauver la vie. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est réglé. Et ce n'était pas moi. Moi, je n'ai rien à y voir. Maintenant, il y a environ 200 personnes qui sont ici pour qu'on prie pour elles. Je veux me reposer juste une minute maintenant. Et ensuite, nous allons simplement commencer à prier pour les gens, les faire venir, pas les faire passer dans une ligne, mais me tenir ici à prier pour eux. Je veux prier pour tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Mais partout dans l'auditoire et ceux qui sont sur l'estrade, je veux que vous reconnaissiez que Jésus-Christ est ici. En êtes-vous tous conscients? Tout le monde en est conscient. Maintenant, pour que ce soit une affaire réglée à tout jamais dans votre esprit, cet homme et moi, nous sommes ici avec les mains levées vers Dieu. C'est la première fois que nous nous rencontrons. S'il lui dit quel est le secret de son cœur, tout comme il l'avait fait à la femme au puits, ou à Philippe, ou tout au long, partout au long de son ministère, s'il le fait, est-ce que ce sera pour vous tous la confirmation que c'est carrément lui, le Seigneur Jésus? Pour vous aussi, monsieur? Je n'ai aucun moyen, aucune idée de ce que peut être votre problème. Je ne sais pas si vous êtes un pécheur ou un chrétien. Je ne pourrais pas vous le dire. Lui, il le sait. Dieu le sait. Mais moi, je ne peux pas vous le dire. Mais si lui, il me le dit. Mais vous êtes chrétien. En effet, dès que votre esprit capte l'onction de cet esprit qui est sur moi, il l'accueille. Alors je sais que vous êtes chrétien. Et vous êtes recouvert d'une ombre très marquée. C'est un problème de sang. Vous avez consulté des médecins. Et ils veulent pratiquer une opération. Et cette opération, c'est, je les entends, il y a deux médecins qui se consultent. Et ils veulent enlever un organe de votre corps qui s'appelle la rate. C'est exact. Vous n'êtes pas de cette ville, mais vous venez d'une grande ville où se trouve un grand institut d'une certaine religion. C'est Wheaton. Et votre nom est Karl Rhodes. Rhodes. Quelque chose comme Karl Rhodes. Très bien, monsieur. Si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez rentrer chez vous et Dieu épargnera votre vie. Le croyez-vous? Prions. Seigneur Jésus, je chasse maintenant ce mal de notre frère. Et au nom de Jésus-Christ, qu'il vive pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Allez votre chemin dans la joie. Combien d'entre vous croient maintenant de tout votre cœur? Maintenant, est-ce que ceux-là sont les seuls pour qui on va prier? Très bien. Eh bien, votre mal de dos est parti pendant que vous étiez assis là-bas. Alors, vous pouvez continuer votre chemin et vous réjouir si vous le voulez. Continuez simplement comme ça en disant « Grâce soit rendue à l'Éternel qui est bon ». Allez, mangez votre souper. Votre problème d'estomac est parti quand vous êtes venu dans la ligne. Alors vous pouvez repartir avec ce que vous vouliez vous aussi. Croyez seulement de tout votre cœur. Vous n'aurez plus de problème d'arthrite si vous le croyez. Continuez simplement votre chemin en vous réjouissant et en louant Dieu. Si vous le voulez bien, frère, très bien. Très bien. Croyez-vous de tout votre cœur? Combien croient Dieu? Je vais juste aller de ce côté-ci un petit instant.